vous allez suivre une conférence de l'Agora des Savoirs, une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
L'interrogation de l'être humain,
la création de l'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
Du 3 novembre au 8 juin, les mercredis à 20h30, salle Rabelais, la ville de Montpellier propose une trentaine de conférences destinées au grand public.
Que voulez-vous, madame? Pour vous, nous avons le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Divergence FM diffuse les conférences en direct sur le 93.9.
Avec quoi est-ce que nous pouvons nous connaître, sinon avec notre propre connaissance?
Ce mercredi 10 novembre à 20h30, le mythe de la science fonctionne-t-il encore? Le 19e siècle a inventé et répandu le mythe de la science, nous donnant la toute-puissance et l'émancipation. Mais de nos jours, nous dira le philosophe Dominique Lecourt, professeur à l'université Paris Diderot, au mythe de la science semble se substituer un retour au mythe de la nature.
Eh bien, merci d'être nombreux pour accueillir ce soir Dominique Lecourt, que je remercie aussi chaleureusement. Dominique Lecourt est philosophe, il est professeur à l'université Paris Diderot. Il dirige dans cette université le centre Georges Canguilhem et par ailleurs, il est le fondateur et le directeur de l'Institut Diderot, qui est un institut qui organise une réflexion sur les savoirs contemporains et l'avenir qu'il nous dessine. Dominique Lecourt est l'auteur d'une trentaine de livres, je vais en mentionner quelques-uns. Il est l'auteur de L'ordre et les jeux, qui a été salué en son temps par Gilles Deleuze. Il est l'auteur aussi d'un livre qui s'intitule Contre la peur. Le sous-titre, c'est De la science à l'éthique, une aventure infinie. Il est l'auteur aussi de Prométhée, Faust, Frankenstein, dont le sous-titre est « Fondement imaginaire de l'éthique ». C'est une réponse, c'est une discussion avec des philosophes et des scientifiques qui prétendaient avoir trouvé les fondements naturels de l'éthique. Il est l'auteur aussi de « Humain, post-humain », un livre qui est consacré au rapport entre la technique et la vie, c'est aussi son sous-titre. Et puis, plus récemment, dans la collection Que sais-je, au PUF, d'un livre qui s'intitule Georges Canguilhem et qui est consacré au philosophe de la médecine, Georges Canguilhem. Alors, je ne cite qu'une partie de ces livres, mais on voit déjà avec ces titres que j'ai cités que l'intérêt de Dominique Lecourt se focalise surtout sur le domaine de la science, et même plus que de la science, sur les conséquences de la science, conséquences politiques, conséquences éthiques, conséquences idéologiques aussi, et puis conséquences mythiques dans certains cas. Dominique Lecourt a été l'élève de Louis Althusser, qui est l'auteur d'un concept. Ce concept, c'est celui de philosophie spontanée des savants. Louis Althusser voulait orienter l'attention par ce concept vers une partie de l'activité des savants qui est souvent négligée, qui est pas de produire des connaissances, pas de produire de nouvelles données, des découvertes, mais aussi de produire de la philosophie. Les savants produisent parfois à leur corps défendant une certaine philosophie. Dominique Lecourt, une grande partie de l'œuvre de Dominique Lecourt est consacrée à l'analyse de cette activité spontanée donc des savants. Et Dominique Lecourt va même jusqu'à dire que la science pense, la science produit une pensée. Et donc il a consacré une grande partie de son œuvre à l'analyse de cette pensée. Alors je suis particulièrement heureux, comme le disait tout à l'heure Régis Penalva, de l'accueillir ici ce soir. En effet, le mon parcours à l'université Denis Diderot, j'ai suivi une grande partie de ses enseignements à l'université Denis Diderot, et en suivant ces enseignements, la raison pour laquelle je me trouve ici maintenant à Montpellier, c'est en partie ces enseignements, parce que l'enseignement de Dominique Lecourt a une particularité, c'est qu'il s'adresse à des scientifiques. Et je crois que c'est une chose qui, jusqu'ici, jusqu'à il y a quelques années, était presque unique en France. Ça se généralise un petit peu maintenant, depuis quelques années, mais sous son impulsion, grâce notamment à la création des postes que, dans le milieu universitaire, dans le jargon universitaire, on appelle précisément les postes Lecourt. Ce sont des postes qui sont créés dans des universités de sciences, mais qui sont destinés à fournir un enseignement de philosophie et de philosophie et d'histoire des sciences à des étudiants en sciences. En travaillant dans cette direction, Dominique Lecourt suivait une tradition qui est maintenant vénérable en France et qui commence avec Bachelard, qui se continue avec Canguilhem, puis avec Foucault. Canguilhem qui écrivait, par exemple, je le cite de mémoire, « La philosophie est cette réflexion pour qui toute bonne matière est étrangère ». Et il ajoutait même, et nous dirions volontiers, pour qui toute toute bonne matière doit être étrangère. Par là, il indiquait que la philosophie n'avait pas pour vocation de réfléchir uniquement sur elle-même, mais qu'elle devait aussi se pencher sur les activités qui lui sont contemporaines. Et je crois que c'est un des traits cardinaux de l'enseignement de Dominique Lecourt. Les philosophes antiques, les philosophes stoïciens notamment, avaient insisté, préconisaient de changer nos désirs plutôt que l'ordre du monde. On l'a bien vu la semaine dernière avec la conférence de Sylviane Aguinzinski, transition avec la conférence ici de la semaine dernière, la science se fixe un objectif où suit un programme apparemment tout à fait différent. Elle suit l'objectif de changer l'ordre du monde plutôt que nos désirs. Mais est-ce qu'un tel objectif est tenable? Est-ce qu'un tel programme peut réellement être maintenu? Est-ce qu'un pareil programme ne tient pas du mythe? Et s'il s'agit d'un mythe, est-ce que nous pouvons croire encore en ce mythe? En posant ces questions, je m'avance vers la question qui forme aussi le titre de la conférence de Dominique Lecourt ce soir. Cette question, c'est le mythe de la science. Enfin, peut-on, le mythe de la science fonctionne-t-il encore? C'est ça l'intitulé. Et donc, je lui laisse la parole. Dominique, merci.
Merci, Pascal. Merci aux organisateurs de cette agora et merci à vous tous qui êtes si nombreux et qui m'impressionnent venant de Paris où les assistances en général sont très maigres quand on parle de philosophie le soir, mais le matin aussi d'ailleurs. Merci à Régis Penalva qui s'est obstiné, a vaincu les réticences de mes secrétariats divers et a réussi à me faire venir aujourd'hui. Merci évidemment à Pascal Nouvelle, qui a été mon élève, mon collaborateur, et que je suis heureux de retrouver ici. Il a joué certainement un rôle important dans ma venue, mais peut-être aussi Montpellier, car au fond, le premier débat public que j'ai fait dans ma carrière, ça a été à Montpellier en 1972, avec Régis Debray et Bernard-Henri Lévy. Vous voyez, c'était un débat qui ouvrait des perspectives. Donc, Le mythe de la science fonctionne-t-il encore? Je précise que je ne suis pas l'auteur de ce titre, mais comme je suis un très bon élève, on m'a donné un titre et je me suis dit, je vais traiter la question. Donc, voici. La science aujourd'hui se présente d'abord comme une réalité sociale, économique, internationale, organisée, comme vous le savez, autour de ces laboratoires, grands et petits, de ces institutions d'enseignement, de ces budgets parfois considérables, de ces programmes de plus en plus souvent internationaux, de ces brevets, de ces prix Nobel, de ces grandes revues dont nous avons les titres en tête, Nature, Science, avec leurs référés qui décident de l'avenir de telle ou telle recherche. Bref, la science aujourd'hui, c'est d'abord ce qu'on appelle, d'un mot ou d'une expression qui peut faire sourire, la communauté scientifique, avec ses rivalités, ses congrès, sa fonction d'expertise de plus en plus sollicitée et de plus en plus discutée par les pouvoirs publics et les entreprises privées. Cette réalité, elle avait été déjà prévue et finalement souhaitée par, au début de la science moderne, par quelqu'un comme Francis Bacon, qui inspira la création de la Royal Society en Angleterre, ou en France par René Descartes, qui, comme chacun sait, a fixé à la science nouvelle l'audacieux projet de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Mais cette réalité s'est concrètement imposée au moment de la révolution industrielle dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Nous en sommes les héritiers, avec les prodigieux effets économiques et sociaux de l'invention et des perfectionnements de la machine à vapeur et des sciences chimiques. C'est donc une réalité économique, sociale, puissante du monde contemporain qui s'inscrit dans une histoire. Mais il existe aussi un mythe de la science, comme les organisateurs l'ont pensé, sans doute à la lecture de quelques textes. L'expression qui m'a été suggérée est doublement paradoxale. La science, en effet, est réputée avoir effacé la pensée mythique de ce qu'on appelle la civilisation scientifique et technique. Les mythes, au fond, pendant longtemps, on a considéré que c'était des fantaisies d'époque révolue, s'était développé avant que la science apparaisse. Les mythologies grecques, romaines, par exemple, dont on soulignait jusqu'à il y a peu, à destination des élèves et des collèges, et des élèves des collèges et des lycées, le caractère poétique et les enseignements moraux à côté des textes bibliques. La fontaine faisant office de passeur. Les mythes, longtemps les anthropologues nous ont enseigné que c'était non seulement pour les anciens, mais pour les autres, et pas pour nous. Nous, les scientifiques, les techniciens. On disait qu'il s'agissait de discours religieux, transmettant des fables colorées portant sur les origines et les fins du monde et de l'espèce humaine. Et certains d'entre vous se souviennent sans doute du choc que cela a été lorsque, il y a plus de 40 ans, Roland Barthes a montré, à sa façon légère, primesautière, que nos sociétés admettent des bribes d'une pensée mythique très active qui a pu s'emparer des fruits les plus populaires de la révolution industrielle, avec pour commencer l'automobile et en l'occurrence la fameuse déesse auquel il a consacré des pages inoubliables. Au-delà de Barthes, on peut dire que nos sociétés, dans leur modernité technologique avancée, comportent toujours, qu'on le veuille ou non, une dimension mythologique, comme l'a si bien montré Pierre Legendre dans son œuvre aussi baroque que monumentale. Or, la science elle-même fait partie de cette mythologie occidentale. J'ai un peu expliqué ça, puisqu'on en parlait à l'instant, dans mon livre « Prométhée, fausse Frankenstein ». Cette entrée du discours scientifique et des pratiques scientifiques dans l'espace symbolique du mythe s'est opérée sous le drapeau haut levé du scientisme, mot inventé par Félix Le Dantec, un biologiste français matérialiste, évolutionniste, à vrai dire lamarckien, en 1912. Mais dès lors que la science est érigée en référence mythologique pour l'ordre social, la science change de statut. Dès lors qu'on prend des décisions politiques, juridiques, au nom de la science, ce n'est plus de la science qui se fait qu'il est question, mais d'une image qui peut être caricaturale. En effet, elle est désormais, pour remplir cette fonction supposée omnisciente et toute-puissante, grand fétiche, elle est devenue l'objet d'un culte. Lisez, relisez, si vous les avez déjà lus, mais je crains qu'on ne les lise plus assez, les grands savants de la Troisième République en France. Lisez Marcellin Berthelot, dont le buste se trouve à l'entrée du Collège de France. Ce grand chimiste, ce grand homme politique, ce grand ministre de l'Éducation nationale. Lisez Paul Bert, qu'on connaît aussi par le nom d'un certain nombre d'établissements scolaires, et bien d'autres qui en ont fait l'idole de l'école laïque. Ils étaient tous scientistes et ils affirmaient avec une brutalité, dirions-nous aujourd'hui, mais une conviction absolument indéniable que la science allait remplacer la religion. C'était le temps de la bataille entre l'Église et l'État, cette longue lutte dont il ne faut jamais oublier la réalité parce que nous en subissons toujours, sous des formes diverses, les traces. Avec la révolution industrielle, accompagnant ses succès, soutenant ses ambitions, s'est imposée, au-delà de la France, en Occident, la conviction que la science, par l'efficacité de ses méthodes, par la puissance de ses applications technologiques, était désormais en mesure d'offrir à tous le bien-être social et moral par la conquête de la prospérité matérielle. S'il y a conquête de la prospérité matérielle, amélioration des conditions matérielles de vie, alors il n'y aura plus entre les êtres humains, entre les citoyens, ces affrontements qui encouragent les sentiments les plus bas de l'humanité. C'était déjà ce que disait Condorcet dans des textes célèbres. Le scientisme a triomphé à la fin du XIXe siècle en France. Il a été soumis à de sévères critiques dès ce moment-là. N'oublions pas Henri Bergson, farouche opposant au positivisme, qui a publié « L'évolution créatrice » en 1907, ni « La révolte du cœur contre l'intelligence » qui se manifesta alors en philosophie comme en littérature, depuis que s'était répandue l'idée qu'en définitive, la science ne tenait aucune de ses promesses. Je vous renvoie aux ouvrages et aux textes célèbres de Ferdinand Brunetière, qui soulignait qu'elle n'était pas venue à bout de tout mystère. Paul Bourget, dans un livre qui a été un best-seller de l'époque, Le Disciple, roman extraordinaire, dénonçait le divorce radical de la science et de la morale. On s'empoignait en France et à l'étranger sur le thème de la faillite de la science. La science n'a pas tenu ses promesses. La science ne pourra jamais les tenir. Il y a un radical écart entre la morale et la science. Il n'empêche, le scientisme a perduré. La révolution bolchévique a trouvé son inspiration dans une vision du monde qui confiait à la science de l'histoire, formule chère à mon maître Althusser, dont on faisait mention tout à l'heure, la promesse d'un avenir radieux pour l'humanité libérée de ses chaînes. Le régime de l'URSS, pendant toute sa durée, n'a cessé de s'appuyer sur les prouesses technologiques de ses ingénieurs pour garder quelque crédibilité aux yeux d'un peuple misérable et souvent affamé. Pensez, rappelez-vous, à Gagarine. La puissance de cette idéologie a été telle qu'elle a survécu à Hiroshima et a même connu un nouveau regain de vigueur du fait des exigences de la reconstruction dans les pays dévastés par la guerre. Plus récemment, les progrès de la biologie, le décryptage du génome humain, les spéculations des sciences cognitives permettent à bien des chercheurs de se flatter à leur tour de dissiper les mystères de la pensée humaine. En des textes qui sont souvent, à leur insu, la pure simple répétition des textes de Berthelot ou de Paul Bert. D'autres se font fort d'arracher l'humanité à ses passions natives et de faire advenir l'ère du post-humain, dont vous entendrez parler, par Jean-Michel Besnier, en créant de toutes pièces des êtres de silicium qui goûteraient aux joies de l'immortalité. Secondée par l'outil statistique et l'informatique, l'étude du cerveau et du développement du système nerveux central est supposée déterminer les clés du comportement humain. Lisez la presse de vulgarisation. Si on veut faire un bon tirage et une belle vente, on titre sur le cerveau et puis on vous explique votre comportement sexuel, ce qui va de soi, moral, ce qui va moins de soi, électoral éventuellement, comme on l'a fait, pour expliquer pourquoi, pour des raisons neurologiques, on votait à droite plutôt qu'à gauche, libéral plutôt que conservateur, du moins en Amérique. Les scientifiques qui professent une vision scientiste du monde peuvent invoquer des faits dont le caractère objectif est incontestable. De leur côté, ils disent, voyez, vous attaquez la science, vous parlez d'une faillite, mais enfin, l'allongement de la durée de la vie dans les pays développés, l'extraordinaire expansion des moyens de communication qui ont intensifié les échanges entre les populations, même les plus éloignées, le fulgurant développement d'Internet et des télécommunications qui a bouleversé tout nos modes de vie dans un sens de convivialité, apparemment, je dis bien apparemment, accrue. L'exploitation de nouvelles ressources d'énergie renouvelable. Pourtant, il apparaît depuis 1992 et le sommet de la Terre à Rio qu'un retournement d'opinion est en cours et s'accélère ces dernières années. C'est la responsabilité de l'homme lui-même qui est invoqué dans le processus de dégradation de l'environnement et les menaces qui pèsent sur sa santé. C'était l'environnement, le thème du sommet de la Terre de Rio. Le philosophe allemand Hans Jonas, l'un des premiers à avoir tenté de formuler un principe de précaution et en tant que fervent défenseur du principe responsabilité, qui interdirait à l'homme d'entreprendre une action susceptible de mettre en danger soit l'existence des générations futures, soit la qualité de l'existence future sur Terre, s'oppose à son compatriote, le philosophe allemand Ernst Bloch, auquel il reproche l'optimisme de son principe espérance. Jonas, quant à lui, plaide pour une éthique de la peur, une thèse métaphysique ajustée par des philosophes à l'occasion d'Hiroshima, nous est asséné comme un destin. L'humanité a désormais acquis, par la science, les instruments d'une puissance qui peut l'anéantir elle-même en tant qu'espèce. La science, naguère conçue comme émancipatrice, devient elle-même un péril pour la liberté. L'humanité, ce n'est plus le genre des mortels, comme on disait dans la Grèce antique. Nous sommes devenus un genre mortel. L'antique fable de l'apprenti sorcier a connu durant toutes ces années une fortune sans précédent. Et le personnage de Frankenstein, auquel je me suis intéressé, un extraordinaire regain de faveur. De la même façon qu'en 1945, on accusait la démesure, on dit ça en grec pour faire chic, hubris, la démesure de l'humanité savante, on critique aujourd'hui les chercheurs qui ont mis au point de nouvelles techniques de procréation et de clonage thérapeutique, et ainsi entrouvert la porte au clonage reproductif humain. La même alarme est tirée dans un tout autre domaine à propos des nanotechnologies, ou plutôt de ce que les spécialistes anglo-saxons célèbrent comme la convergence NBIC, nanosciences, biologie, informatique et sciences de la cognition. Est-ce qu'on ne peut pas espérer de ces innovations, des innovations potentielles de grande portée économique et humaine de ces travaux? Le système de traitement de l'information vont assurément y gagner une puissance nouvelle, on estime aujourd'hui d'une dizaine d'ordres de grandeur, mais probablement que cela sera dépassé. Les applications médicales seront spectaculaires et on produira des nanomachines pour le diagnostic et la thérapeutique de nombreuses maladies. On peut espérer que les nanotechnologies contribueront de façon décisive à surmonter l'actuelle crise environnementale par la création de matériaux recyclables ou biodégradables. Mais aussitôt les fervents des nanotechnologies ont-ils parlé, aussitôt s'y opposent ceux qui disent « Ah, vraiment ?» Ben cette fois-ci, ce sera la fin du monde. Et ils expliquent, ils avancent l'idée, même l'image, d'une grès égout, un amas de nanomachines devenues autonomes et dévorant tout pour se reproduire. Tu auras raison de nous autres qui nous croyons si raisonnables. Cette hypothèse a été pour la première fois avancé par Eric Drexler en 1986, dans son texte fondateur des nanotechnologies, dont je vous conseille vivement la lecture, Engines of Creation. Scénario de science-fiction qui s'est imposé au cœur du débat et des peurs suscitées par ces nouvelles technologies, et dont vous avez quelques exemples de ce qu'on peut en tirer du point de vue esthétique dans un roman comme The Prey. La proie. On peut bien parler de catastrophisme à propos de ces discours. Les faits qui le soutiennent sont bien connus, eux aussi, alimentant une peur diffuse, mais permanente, toujours prête à connaître de nouveaux pics de panique. Cette peur doit beaucoup à l'incurie des autorités qui ont laissé se produire la catastrophe de Tchernobyl. Référence permanente. Alors, ces autorités, c'était les autorités soviétiques. Il est vrai que la catastrophe de Tchernobyl est issue d'un système de contrôle des risques qui était nul. Et probablement que si ce contrôle était nul, ce n'était pas pour des raisons technologiques, l'Union soviétique ayant fait preuve, comme je le rappelais tout à l'heure, de ses grandes capacités, mais pour des raisons, disons, morales et politiques, parce que, après tout, la vie des citoyens ne méritait pas des dépenses trop considérables. Mais il n'y a pas qu'en Union soviétique que ce genre de choses apparaît. Et il n'y a pas que la science qui produit ce genre de catastrophe. Un certain éboulement au Chili vient de nous éclairer là-dessus. Donc la catastrophe de Tchernobyl, les errances du nuage radioactif, les mensonges officiels sur sa trajectoire. Comment ne pas avoir gardé en tête ces déclarations insensées, comme quoi un nuage radioactif respecterait des frontières. Non. L'épidémie du sida, avec tout ce qu'il y a eu autour de cette épidémie de peur injustifiée et justifiée, d'annonces indécentes, quand à peine l'épidémie est identifiée, on annonçait la création d'un vaccin pour les années qui suivaient. Voilà qui a quand même atteint terriblement la crédibilité de la communauté scientifique et en l'occurrence médicale. L'apparition de nouvelles maladies infectieuses, l'affaire du sang contaminé, les crises alimentaires majeures comme celle de la vache folle, puis maintenant les événements climatiques d'une ampleur et d'une fréquence présentées par les médias comme sans précédent, les canicules, les inondations, les tornades, les tsunamis, qui mettent un accent pathétique sur la vulnérabilité persistante de l'espèce humaine qui se croyait tellement à l'abri par sa capacité scientifique et technique. Du réchauffement climatique, oui, je prends le risque d'en dire un mot, du réchauffement climatique actuel, dont le fait semble indéniable, on ne sait pas encore exactement la signification physique réelle ni la part qu'y prennent les activités humaines, puisque, par exemple, je le rappelle, la montée brutale des émissions de CO2 du fait de l'industrie depuis 1940 s'est accompagnée non pas d'un réchauffement, mais d'un refroidissement jusqu'au début des années 70. Phénomène est donc certainement plus complexe que ne l'affirment les réchauffistes, et l'alarmisme dont il est l'occasion désigne la technoscience comme fauteuse de désastres. Les bases philosophiques du scientisme traditionnel sont donc concernées. Les phénomènes de technophobie, ce que j'appelle la technophobie depuis quelques années, font la une des médias. Inlassablement, on se demande, les OGM ne vont-ils pas ruiner notre santé? Et on ne parle que des OGM, des plantes, des PGM, il faudrait dire. Car pour ce qui est des médicaments, on ne se pose guère de questions. Les téléphones mobiles ne vont-ils pas nous soumettre à un rayonnement électromagnétique mortifère? Toute innovation, et spécialement médicale ou pharmacologique, ne doit-elle pas avoir fait d'avance la preuve de son innocuité, ce qui est la version radicale du fameux principe de précaution. Faire d'avance la preuve que l'on ne va exposer personne à aucun risque. Mais en 1992, à la clôture de la conférence de Rio, dans un appel fameux, l'appel de Heidelberg, des scientifiques parmi les plus éminents, dont une bonne cinquantaine de prix Nobel, dénonçaient dans des thèses écologistes ce qu'ils appelaient une idéologie obscurantiste et rétrograde. Et ils affirmaient que seuls les nouveaux progrès de la science pourraient venir à bout des difficultés passagères qu'imposait le développement économique de la planète. Une fois encore donc, le scientisme n'avait pas dit son dernier mot. Sur ces questions, je vous renvoie à mon livre « Contre la peur » pour lequel j'avais écrit une annexe pour la deuxième ou troisième édition sur l'appel de Heidelberg pour désigner cette situation, pour caractériser cette situation dont nous ne sommes pas sortis, d'un face-à-face entre des écologistes et des scientifiques qui, au fond, font apparaître que les défenseurs de la science ignorent ou veulent ignorer, par croyance en sa toute-puissance, qu'il y a des problèmes humains, sociaux, qui ne peuvent pas être traités par application de la science, des sciences de la nature. Le débat n'a pas cessé de rebondir dans les mêmes termes depuis 15 ans. Résultat, aujourd'hui, on se trouve dans cette situation paradoxale que jamais les recours aux technologies de pointe n'a été autant prisé dans la vie quotidienne par les citoyens du monde entier. Pensez au téléphone portable, pensez à Internet. Cependant que jamais autant de discours militants, associatifs et d'hommes politiques n'ont été aussi alarmistes à l'échelle de la planète, sur les dangers de la civilisation scientifique et technique qui sont dénoncés par l'usage même du fleuron de l'industrie de la communication. Nombreux sont ceux qui alertent les opinions publiques, non seulement sur ce qu'on appelait dans les années 60, c'était la CFDT qui avait inventé ça, les dégâts du progrès, mais sur l'intrinsèque perversion de la technoscience, de ce qu'on appelle la technoscience, réputée fatale au développement durable. C'est-à-dire, conformément au mot anglais, sustainable, prolongeable et endurable pour l'homme et pour la nature. Face au scientisme qui demandait à l'homme d'adorer sa propre raison divinisée grâce à la science, le catastrophisme n'affirme-t-il pas lui aussi paradoxalement la toute-puissance de l'homme grâce à la même science, au prix tout juste d'une inversion de signe du positif au négatif? La question que je pose est, c'est est-ce que ce n'est pas au fond deux variantes d'une même idéologie qui flatte le narcissisme humain et qui entretient une vision eschatologique de l'histoire, arrivant les uns au paradis, béats, et les autres en enfer, grimaçant. Il serait évidemment bien imprudent de réduire plus d'un siècle de débat à l'affrontement de deux discours théologiques rivaux qui s'ignoreraient. Car comment expliquer alors les négociations internationales qui entourent le fameux réchauffement climatique? les mesures de taxation proposées sur les émissions de CO2, la taxe carbone, les innombrables incitations, règlements minutieux qui sont en train d'être mis au point pour économiser l'énergie, préserver la biodiversité et réussir éventuellement le développement durable. Comment ne pas se demander si les discours que nous venons d'évoquer n'accompagnent pas la mise en place de ce que un autre philosophe, Bernard Stiegler, appelle un nouvel ordre industriel mondial. La peur, et l'attrait paradoxal pour la peur, car nous aimons avoir peur, et nous aimons contempler sur nos écrans le spectacle de nos peurs, constituerait le ciment moral de cet ordre qui partage aujourd'hui le monde en deux parties. Permettez que je sois un peu schématique. Des individus décervelés, soumis aux impulsions des multinationales de l'affectivité, et des individus hyper-cérébralisés, voués au culte de la performance au nom de la science. Je reviens à mon commencement et je réponds à la question qui m'était posée. Oui, il existe bien un mythe de la science. Ce n'est pas la science elle-même, c'est-à-dire le travail des scientifiques au quotidien qui façonne pour une grande partie notre monde, mais une image mythifiée de la réalité des sciences et des technologies. Cette image, elle vient prendre place, elle est venue prendre place dans la dimension mythologique des sociétés modernes que nous devons reconnaître comme une réalité et non pas nier en la rejetant au passé ou en l'expulsant vers l'extériorité de nos civilisations. Ce mythe de la science qui existe, fonctionne-t-il ? Assurément, oui, comme mythe. Combien de discours sur les origines tenues par des scientifiques et médiatisées, où l'existence de Dieu, par exemple, ben ce n'est pas le moindre exemple, est supposée démontrée par l'astrophysique. Il y a, si je ne m'abuse, deux célèbres jumeaux qui font fortune sous nos yeux avec ce discours-là. Combien de projets d'hommes nouveaux confiés à la réalisation technologique avancée? Combien, je le disais tout à l'heure, de décisions politiques prises au nom de la science, qui n'en peut mais? Combien, à l'inverse, de discours qui s'emparent de cette figure mythique, c'est-à-dire de l'omniscience et de l'omnipotence qu'on prête à la science contemporaine pour dénigrer sa toute-puissance ou sa supposée toute-puissance et rejeter ses prétentions à tout comprendre et à tout maîtriser, jusque en médecine où l'on voit fleurir les médecines dites parallèles ou douces, mais qui font appel à des principes qui sont fondés sur le rejet de l'inhumanité d'une médecine qui se présente comme purement scientifique, qui traite les maladies et oublie les malades. Oui, le mythe fonctionne encore, et même plus que jamais, même s'il subit, j'y insiste, des retournements de sens spectaculaires. Cessons donc de dénier la dimension mythologique de l'existence humaine. Ne la rejetons pas comme irrationnelle, ce mot terrible, pour mieux mythifier la science. Essayons une fois pour toutes mais il n'y a jamais d'une fois pour toutes. Alors, c'est de la rhétorique. Essayons de comprendre rationnellement les ressorts de l'irrationnel. Ce qu'on appelle l'irrationnel, ça existe. Et ce n'est pas parce qu'on le rejette sous ce mot supposément infamant que ça n'existe pas. Mais alors, si ça existe, il faut l'expliquer. Et pour l'expliquer, nous avons les ressources de notre raison. Mais ce n'est pas parce que nous l'aurons expliqué rationnellement l'irrationnel que l'irrationnel disparaîtra. C'est un élément essentiel de notre vie à nous autres humains qui sommes destinés à ne pas savoir ni aimer, ni vivre, ni mourir. La réalité de la science ne peut être réduite à la construction sociale de récits culturels parmi d'autres, comme le prétendent de nombreux sociologues depuis 40 ans. La sociologie des sciences s'est mise en tête de soutenir une thèse aussi radicale que cela et aussi paradoxale. Ce qu'on appelle la science, c'est la capacité qu'a l'être humain de rectifier ses erreurs dans l'effort de connaissance. Et un tel effort ne s'est jamais exercé dans le vide. Son dynamisme spirituel indéniable prend pour objet non pas les résultats de la simple observation, comme un certain empirisme le soutient, mais les difficultés et les échecs de la technique humaine à maîtriser la nature. Devant les révolutions technologiques, électroniques, génétiques, etc., dont j'ai parlé, qui bouleversent les conditions de la vie humaine à l'échelle de la planète, une réflexion s'impose, me semble-t-il, sur deux réalités qui sont trop souvent confondues et dont la distinction est de grandes conséquences philosophique et pratique, l'invention et l'innovation. Il faut penser l'invention pour maîtriser l'innovation. L'invention, je veux dire là, le processus d'inventer et son résultat, puisque le mot a ce double sens, appartient à l'espèce humaine dans son débat avec son milieu. Elle le distingue, cette espèce, de tout autre animal en faisant entrer dans l'existence des objets techniques pétris d'humanité. Un ethnographe comme André Leroy-Gourhan ou un philosophe comme Gilbert Simondon l'ont amplement montré. L'homme façonne son environnement grâce à cette faculté majeure qui est en lui l'imagination, maîtresse d'invention. C'est ça qui est essentiel. Le levier, la roue, le gouvernail, le système bien manivelle, ce sont des exemples. Ce ne sont pas des applications des sciences. Ce sont des résultats de l'affrontement de l'homme avec le monde sur le mode de la technique et qui se sont ajustés de façon très mystérieuse. Tous les historiens des techniques vous le diront, au fil des millénaires. L'invention, l'homme, comme disait Simondon, est un être technique. Il n'y a pas l'homme qui s'empare des techniques, il y a la réalité technique de l'homme qui se développe dans sa capacité à façonner et adapter son environnement à lui-même. Et non pas s'adapter à l'environnement passivement. L'innovation désigne au premier chef les effets sur le système technique existant de l'introduction d'une invention. Par exemple, pour prendre un exemple lointain, à partir du moment où les marins peuvent s'éloigner des côtes, parce qu'ils ont un gouvernail, ce qu'ils n'ont pas toujours eu, voyez l'Antiquité, il s'ensuit des innovations qui affecte de proche en proche le commerce, l'alimentation, l'art militaire, etc. Toute la civilisation s'en trouve modifiée. La question est alors de savoir maîtriser ses effets. Et les interrogations que suscite aujourd'hui l'impact de la télévision sur le psychisme des enfants, question qui va devenir une question clé de l'avenir d'ici peu. Celui des téléphones portables sur le cerveau des adolescents, celui d'Internet sur les structures du comportement humain, ne peuvent pas être ignorés sans s'exposer à de nouvelles catastrophes. L'idée qui court, c'est que, du fait de ces innovations, l'humanité se trouverait menacée dans son existence même. Mais alors, les trésors de ruse, les gens distingués disent en grec métis, et d'intelligence, que l'homme a déployé au fil des siècles pour façonner le monde de son existence, sont radicalement dévalués. La civilisation occidentale est mise en accusation pour son industrialisme productiviste et son égoïsme imprévoyant. Moyennant ce que j'appelle une simple inversion de signe, se maintient ainsi la fiction de la toute-puissance de la technoscience imposée en Occident par les ingénieurs et les médecins positivistes du siècle dernier. Hier, on imaginait le salut laïque de l'humanité par la science appliquée. Aujourd'hui, on annonce l'apocalypse tout aussi laïcisé, c'est-à-dire sans aucune espérance. Nous voilà donc assaillis par une petite métaphysique, celle qui assigne à l'homme la place de Dieu ou du diable, comme savent si bien le mettre en scène les films hollywoodiens. Au nom du principe de précaution, on demande à chacun qui entreprend une activité productive ou une recherche créatrice d'apporter d'avance, je cite, la preuve de l'absence de risque qu'il court ou fait courir aux autres, ce qui excède tout simplement les possibilités de la condition humaine et relève de cette hubris que l'on condamne si énergiquement. On ne peut pas prouver l'absence de risque. On demande au même, au nom du même principe, de prévoir l'imprévisible, autre tour de force qui nous demanderait de nous affranchir de nos limites humaines. On suscite et on promeut la naissance d'un nouveau type d'homme, l'homme précautionneux, qui risque de renoncer à tout progrès dans la connaissance et dans l'action, faute des certitudes absolues qui se voient enjoint d'exiger de lui-même avant d'entreprendre. Non, nous ne savons ni ne pouvons jamais prévoir l'imprévisible. Mais comme le faisait remarquer en son temps le philosophe et homme d'action français Gaston Berger, nous devons toujours garder conscience de ce que l'imprévu peut survenir et il faut nous y préparer. L'inventeur que la paix soit parmi vous. L'inventeur en France de la prospective expliquait ainsi qu'ainsi entendu cette discipline, la prospective, ne pourrait jamais prétendre au titre de science, mais devait être considérée comme une éthique, ouverture à l'imprévu, non seulement pour conjurer le danger, mais pour saisir la chance qui se présentera. Car l'imprévu, ce n'est pas forcément la menace d'un risque grave, ça peut être aussi comme on dirait en anglais aujourd'hui, l'opportunité d'une chance exceptionnelle. Non, n'en déplaise aux sages du Conseil d'État, qui se sont un instant philosophiquement égarés. Il n'est pas possible d'apporter la preuve d'une absence de risque, je répète. Mais ayant pris conscience du risque potentiel, on peut, je dirais même on doit, faire l'effort intellectuel et physique nécessaire, non seulement pour l'avérer ou non, mais pour le contourner. Encore une fois, il s'agit d'une attitude éthique, celle-là même qui se trouve, via la technique, à l'origine du progrès des connaissances et de ses applications dans le monde moderne. Si nous savons saisir le moment opportun des discussions qui se sont nouées autour de l'avenir de la planète pour repenser ces questions à fond, c'est à mon avis une nouvelle civilisation qui s'annonce. Mais vous aurez compris qu'elle reposera sur une forme de pensée qui devrait être le legs le plus précieux de l'Occident, la philosophie, qui s'interroge inlassablement sur la valeur des valeurs que nous admettons et qui sont soumises inlassablement à l'épreuve du progrès de nos connaissances. Je vous remercie.
C'était l'Agora des savoirs.
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Des conférences ouvertes à tous.
La science est un discours.
Le mercredi à 20h30, salle Rabelais à Montpellier et en direct sur Divergence FM 93.9.
L'interrogation de l'être humain.
La création de l'univers.
Le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Depuis 2 millions d'années, il se raconte des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Il y a beaucoup de choses en nous.
L'Aristide de Cyrène jusqu'au mur de mai 68.
Que nous ignorons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
La science est un discours.
Avec quoi est-ce que nous pouvons nous connaître? Sinon avec notre propre connaissance.
L'Agora des savoirs, une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec SORAMS, la Maison des sciences de l'homme de Montpellier, Direct Montpellier Plus et Divergence FM.
Vous avez pu entendre Dominique Lecourt sur la question « Le mythe de la science fonctionne-t-il encore ?» Prochain rendez-vous de l'Agora des savoirs le mercredi 17 novembre à 20h30, salle Rabelais, ou en direct sur Divergence FM avec une conférence de Marilène Patou-Matisse, « L'homme de Néandertal valait-il moins qu'Homo sapiens ?»